الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فإننا في اليوم السادس من شهر رمضان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس التاسع في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 11 juin 2016 et nous entrons aujourd'hui dans le 9e cours de l'étude du livre de l'unicité de son auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Nous avons conclu et terminé l'étude du troisième chapitre, Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Chapitre: quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Nous passons au cinquième chapitre de ce livre béni. Qala rahimahullah, Babu al-khawf min ash-shirk. Chapitre: la peur du polythéiste, du polythéisme, la peur de l'association, la crainte de tomber dans ce péché terrible, dans cet interdit incommensurable, aux conséquences les plus néfastes et dévastatrices dans ce bas monde, dans l'au-delà, le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme, l'association, est la pire des injustices. Nous avons vu que le polythéisme donner un égal à Allah dans une des choses qui lui reviennent de droit, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu également qu'il se divise en deux: ash-shirkul akbar, ash-shirkul asghar. Polythéisme majeur, polythéisme mineur. Association majeure, association mineure. Le Cheikh, l'auteur, rahimahullah, passe à ce chapitre celui de l'obligation que le musulman a de sentir dans son cœur la crainte de tomber dans cet immense péché qui est le polythéisme, qui est l'association, qui est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre, Munasabatu Al-Bab, l'Ikitab al-Tawhid, est tout simplement le fait que l'auteur, rahimahullah, a cité dans cet écrit, Kitab al-Tawhid, le Tawhid, et il cite aussi son contraire, qui est Ash-Shirku Billah, subhanahu wa ta'ala. Car pour connaître une chose complètement, il faut aussi comprendre son contraire. C'est pour ça que le poète a dit: والشيء يظهر حسنه ضده وبضدها تتبين الأشياء. Et la chose, la beauté de la chose est embellie par la connaissance de son contraire, car par les contraires les choses se connaissent. Je te donne un exemple pour illustrer ce vers de poésie. Lorsque tu as vu une chose moche, cette chose moche t'a permis de comprendre la beauté de cette même chose qui est belle. N'est-ce pas? Vous avez compris? Lorsque je te dis le jour, je pourrais te dire le jour c'est le moment de la journée où l'humain va qu'à ses occupations et va chercher sa subsistance. Si je te dis c'est le contraire de la nuit, je n'ai plus besoin de parler, c'est clair. N'est-ce pas? At-tawhid, on l'apprend avec son contraire qui est le shirk. Comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent, qui est la concrétisation du tawhid, est le fait de savoir que celui qui concrétise le tawhid devra forcément éprouver la crainte du polythéisme et la peur de tomber dans le shirk. Sinon, il n'a pas concrétisé son tawhid. Car lorsque tu as connu l'importance du bienfait, la grandeur de la ni'ma, tu vas avoir peur de la perdre. C'est pour cela que le riche a peur d'être pauvre. C'est pour cela que celui qui est en bonne santé craint de tomber malade. N'est-ce pas ? Si bien qu'il existe des gens qui font des régimes où ils vont s'abstenir de manger des choses licites, pures, par crainte d'une conséquence qu'ils ne veulent pas avoir, ils ne veulent pas connaître. Ils s'abstiennent de manger des nourritures licites, le but étant de préserver leur corps, comme on le voit chez les gens de la dunya. N'est-ce pas ? Les sportifs et autres. Que dire alors lorsqu'il s'agit de préserver ton calme, ton cœur, lorsqu'il s'agit de préserver ta religion qui est toute ta vie? Comment ne vas-tu pas faire un régime où tu vas te préserver du shirk billahi subhanahu wa ta'ala? L'homme se préserve d'un repas, d'une nourriture licite par peur d'être touché par une maladie à force d'en manger, éventuellement, pour une éventualité, il préfère s'en passer. Comment ce même homme ne va-t-il pas se prémunir du shirk dont les conséquences néfastes ne sont pas une éventualité, mais bien une certitude? Et le shirk billah subhanahu wa ta'ala, ses conséquences sont destructrices dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quiconque associe à Allah, donne un égal à Allah dans ce qui revient de droit à Allah, subhanahu wa ta'ala, a commis l'acte le plus horrible, la pire des choses. Il s'est égaré d'un égarement qu'on ne pourrait décrire. Wal'iyadu billah. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a créés que pour combattre le shirk, que pour lui vouer le culte de façon exclusive, seul et sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Le but de ce chapitre est donc de mettre en garde le monothéiste contre le contraire du tawhid qui est ash-shirk, qui est le polythéisme. C'est une obligation qu'il a de craindre ce péché et de faire les efforts, de les fournir pour pouvoir s'en prémunir, pour pouvoir en être le plus loin possible, comme on va le voir après dans le verset de la parole du prophète Ibrahim alayhi salam. D'autant plus, comme l'appuie le cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah, qu'il existe dans cette époque que nous vivons des moyens de communication qui ont permis aux prêcheurs, aux faux, de propager ash-shirku billahi subhanahu wa ta'ala, le polythéisme et l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, dans la terre d'Allah, alors que ces gens sont peut-être assis dans leur demeure, seuls. Ils ont une connexion internet qu'ils utilisent pour propager la malédiction d'Allah dans les cœurs des gens. Wal'iyadu billah. Et cela devient d'autant plus grave quand on dit que ces actes de polythéisme font partie de la religion d'Allah. Wal'iyadu billah. Comme on le trouve chez des gens qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » alors qu'en réalité, ils sont des polythéistes. Ils sont des polythéistes à travers leurs actes, à travers leurs paroles, à travers leurs convictions. Et certes, ils ont prononcé la parole du tawhid, mais ils l'ont annulée, comme celui qui a fait ses ablutions et qui a laissé un gaz sortir. Comme l'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son livre « Al-Qawa'id al-Arda'a » que je vous conseille d'étudier et que par la grâce d'Allah nous avons enseigné. Al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a dit: pour montrer que la personne craint vraiment de tomber dans le polythéisme, dans l'association, cela se voit par l'application de deux choses. Si ces deux choses sont appliquées, il est possible de dire que cet individu qui les a appliquées craint de tomber dans le polythéisme. La première chose, ad-du'a, l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment quelqu'un qui craint quelque chose n'implore pas le Seigneur subhanahu wa ta'ala de l'en préserver, de l'en prémunir? de le protéger, tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Tabarani a rapporté un récit jugé bon par le Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons un jour, « Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ittaqu hadha shirk, prémunissez-vous de ce polythéisme, protégez-vous de ce shirk, fa'innahu akhfa min dabib an-naml, car il est plus caché encore que la marche de la fourmi. » Il y a des formes de polythéisme qui sont aussi cachées, en vérité plus cachées encore que la marche de la fourmi. Aujourd'hui, vous êtes tous là. Si une fourmi passe entre vous et moi, l'un d'entre nous va-t-il la voir? Va-t-il la remarquer? N'est-ce pas qu'il ne va pas la remarquer? Le pas de la fourmi est quelque chose de caché. Il y a des formes de polythéisme qui sont plus cachées encore que la marche de la fourmi. Le prophète qui le dit à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُولُ من شاء الله أن يقول. Certains ont dit, كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله. Comment pourrons-nous s'en prémunir alors qu'il est plus caché que la marche de la fourmi, ô messager d'Allah. Voici ce que nous enseigne le prophète صلى الله عليه وسلم. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Il répondit, dites, ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit en pleine connaissance de cause. Et nous implorons ton pardon pour ce que nous avons fait sans le savoir. C'est-à-dire que tu dois invoquer Allah pour qu'il te protège du shirk. Également, on apprend ici que des gens peuvent tomber dans le shirk sans le savoir. Et cela nous montre l'importance du savoir et de la connaissance. Et plus tu connais, plus tu te protèges. C'est pour ça que dans la médecine, ils ne cessent de faire des recherches en détail sur les maladies, sur les cancers, sur la façon dont les cancers se propagent et atteignent la personne. Pourquoi ? Pour aller chercher leur remède, n'est-ce pas ? Que dire alors du pire des cancers ? Le cancer le plus maudit, ashirku billah, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc connaître les formes de polythéisme. Ashir Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, nasaba an yadhkura dhidd al-tawhid wa huwa shirk. Il convient que l'auteur ici cite le contraire du tawhid qui est le shirk. لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به. Car il n'est pas suffisant que la personne connaisse le tawhid et le mette en application. بل لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك. Mais il faut absolument que cette personne en connaisse le contraire qui est le shirk. Pourquoi? Tu vas apprendre le tawhid, tu vas le mettre en pratique et tu ignores une forme de polythéisme. Tu risques de tomber dans celle-ci. Elle va entraîner l'annulation de tout ce tawhid que tu avais mis en pratique avant de tomber dans ce polythéisme. Ce n'est donc pas suffisant de connaître le tawhid, il faut aussi son contraire. خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَيُفْسِدَ عَلَيْهِ تَوْحِيدًا. De peur qu'il ne tombe dans le polythéisme qui entraînera l'annulation de son tawhid. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. C'est pour cette raison que Hudayfa Ibn al-Yaman radiyallahu anhu a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr. Autrefois les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Wa kuntu as'aluhu 'an ash-shar. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal. Pour quelle raison? Makhafata an yudrikani. De peur qu'il ne m'atteigne. Regardez l'intelligence de ce compagnon. Et c'est pour cette raison que Hudhayfa radiyallahu anhu est le compagnon qui a narré ou qui a rapporté le plus de hadith traitant du sujet des troubles et des fitanes, car c'est lui qui posait beaucoup de questions dans ces sujets. Et s'il n'avait pas posé ces questions, peut-être qu'aujourd'hui on ne connaîtrait pas tous ces troubles et tous les fitnes et comment en sortir. Donc cela nous montre l'importance de connaître le mal pour pouvoir s'en prémunir et préserver le bien que l'on possède. Pour préserver le bien que l'on possède. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan a dit: فَلَا يَعْرِفُ قِيمَةَ الصِّحَّةِ إِلَّا مَنْ ذَاقَ الْمَرَضِ. Ne connaît la valeur de la santé que celui qui a goûté à la maladie. وَلَا يَعْرِفُ قِيمَةَ النُّورِ إِلَّا مَنْ وَقَعَ فِي الظَّلَامِ. Et ne connaît l'importance de la lumière que celui qui est tombé dans les ténèbres. وَلَا يَعْرِفُ قِيمَةَ الْمَاءِ إِلَّا مَنْ عَطَشَ. Et ne connaît l'importance de l'eau que celui qui a soif. وَهَكَذَا. Et ainsi de suite. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit: وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنبها. Ne connaîtra le véritable tawhid, le mérite du tawhid, que celui qui en connaît le contraire, qui est le shirk, afin de s'en préserver. ويحافظ على التوحيد, pour préserver son tawhid. Et ici, Al-Sheikh Salih nous dit: يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة. On voit ici la caducité de la parole de ceux qui disent: nul besoin d'étudier les croyances erronées, les dogmes égarés. Nous n'avons pas besoin de cela. Ils disent: nous n'avons pas besoin d'étudier la croyance des Mu'tazila, la croyance des sectes appelées Al-Jahmiyyah, ce sont des noms de sectes ayant les croyances égarées dans beaucoup de sujets de la croyance. Ils disent: les annahum badu wa dhahabu, car ces gens-là sont morts et n'existent plus. Allimun nas at-tawhid wa yakfi. Ces prêcheurs à l'égarement disent: enseignez aux gens le tawhid et ne parlez pas des croyances égarées, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Car tu peux apprendre le tawhid, mais si tu ne connais pas la croyance égarée qui entraîne l'annulation de ce tawhid, tu risques de tomber dedans. Ainsi, tu te serais fatigué inutilement. Donc, on apprend la santé, on apprend la maladie, on apprend à connaître quels sont les plats nocifs, quels sont les plats qui font du mal au corps, pour s'en préserver et garder notre santé. Pourquoi ne pas garder la véritable santé, la parole la ilaha illallah? Ils disent: enseignez aux gens les sujets de la dunya, la technologie, apprenez-leur, car les gens maintenant connaissent At-Tawhid par leur prime nature, leur nature saine. Ils connaissent déjà At-Tawhid, malheureusement. Fal'iyadu billah. Ils disent: le vrai shirk, c'est le shirk politique, le shirk des gouverneurs. Arrêtez un peu d'appeler à délaissement de l'adoration des tombes et de toutes ces choses-là. Le vrai shirk, ce sont les formes de shirk que font les gouverneurs. Wal'iyadu billah. Ils disent: taraku shirk al-qusur wa dhakaru wa'tanu bi shirk al-qubur. Ils disent: ces gens-là ont délaissé le polythéisme des châteaux et se sont occupés du polythéisme des tombes. Wal'iyadu billah. Alors que ceci est faux, et par cette parole, ils ont voulu dénigrer les gens de la sunna, les prêcheurs au tawhid. D'ailleurs, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan a été accusé de cela par ses détracteurs, hafidhahullah ta'ala. Il n'accorde donc aucune valeur ni importance au shirk, wal'iyadu billah. Et ceci est un égarement. Et retenez-le bien, ô musulmans, si quelqu'un vous dit: il n'y a pas de nécessité à étudier ces formes de polythéisme, et il vous donne comme exemple l'adoration des tombes, n'étudiez pas ça. Il vous donne comme raison qu'ici, dans le pays dans lequel nous vivons, les tombes ne sont pas adorées. Sachez que dans son cœur, il a du hawa. Il a dans son cœur de la passion, de la bid'a et de l'égarement, sans le moindre doute. Parce que les prophètes ont appelé au tawhid. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'innovation avant même qu'elle n'existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché au tawhid il dit à ses compagnons, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur, shirkul asrar. Qu'est-ce que ce genre d'individu qui profère de telles paroles dirait s'il était en face des compagnons à qui l'on dit ce genre de phrase? La chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et la personne qui parle de cette façon est une personne qui n'a pas étudié le tawhid. Et si elle l'a étudié, elle n'en a pas compris le sens, sans le moindre doute. Retenez-le bien. Donc c'est quelque chose de très important. Et ceci vient des ruses de Shaytan. Wal'iyadu billah. Donc, voici un peu l'importance de ce sujet. D'ailleurs, Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, pour répondre à ces gens qui disent, pourquoi parlez-vous de ces croyances dont les personnes sont mortes? On n'en entend plus parler, mais vous ne cessez d'en parler. Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, dans la traduction approximative, Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas parlé des croyances des ennemis des prophètes qui sont tous morts? Dans le Coran, il y a des versets détaillés. Wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Allah azza wa jalla a dit, et ainsi nous exposons clairement les signes ou les versets afin que le chemin des criminels devienne clair, c'est-à-dire pour que les croyants puissent s'en prémunir. Donc, Allah Azza wa Jal a parlé des shubuhat al-mushrikin fil Qur'an, des ambiguïtés émises par les polythéistes qui sont morts, et les tribus qui n'existent plus. Il a parlé du peuple de Pharaon, Haman, Qarun, Nuh, Ad, Thamud. Toutes ces nations n'existent plus. Et pourtant, Allah en parle, tabaraka wa ta'ala, dans des versets qui sont appris, étudiés, récités, enseignés, et dont les sens sont étudiés en profondeur jusqu'au jour dernier, inshallah ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah enlèvera de la terre les musulmans. Que dire alors de cela? Car même si les personnes sont mortes, même si les gens sont morts, la croyance, il faut quand même la combattre. Pourquoi? Afin qu'elle ne revienne plus si elle a disparu, et afin qu'elle disparaisse s'il en reste encore. Ça, c'est da'watul anbiya. Ça, c'est le prêche des prophètes. C'est le message prêché par l'élite de l'humanité qui sont les prophètes et les messagers. Ainsi, celui qui a connu le tawhid va craindre de tomber dedans. Ça, c'est le premier point dont nous avons parlé, qui montre la véracité de quelqu'un qui dit craindre le polythéisme. Le deuxième point, cité par le Cheikh Abdelrazzaq Hafidhahullah, huwa ma'rifatu shirk wa haqiqatihi liyatajannaba. C'est, et on l'a un peu évoqué, connaître la réalité du polythéisme, ses formes, pour pouvoir s'en prémunir. Et ça, alhamdoulillah, on l'a déjà cité. Voici donc un peu le chapitre que va traiter le Cheikh par la citation et la mention de versets du Coran et de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith qui a été cité, le premier verset qui a été cité, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlillahi azza wa jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, en suratul Nisa, dans le sens rapproché du verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Et à part cela, il pardonne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset est une base dans le tawhid. C'est sur ce verset que les savants se basent lorsqu'ils disent que l'entrée au paradis se divise en deux. Vous vous souvenez de cette question? L'entrée au paradis. Il y a l'entrée immédiate et l'entrée après avoir été châtié. L'interdiction d'entrer en enfer, l'interdiction d'être brûlé au feu se divise en deux. L'interdiction d'y entrer et l'interdiction d'y rester éternellement. Ça, on en a parlé dans les derniers cours. La base de la preuve de toutes ces questions, c'est ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne pardonne pas les péchés. La yaghfiru an yushraka bih. Quel est le sens? ay in mat alay, c'est-à-dire pour celui qui meurt dans cet état. Mais celui qui se repent à Allah, yatubu min ash-shirk, et qui se réforme, est-ce qu'il est pardonné? Vous en êtes sûr? Allah ici, subhanahu wa ta'ala, a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Comment pouvez-vous affirmer une telle chose? La réponse va venir, incha'Allah ta'ala, dans surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, vers la fin de la surah, fait les éloges de ses serviteurs qu'il a appelés wa ibad al-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Et parmi les caractéristiques et les qualités de ces personnages pieux et vertueux, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَ الْآخَرِ, et ceux qui n'invoquent pas en dehors d'Allah une autre divinité, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, et qui n'assassinent pas injustement une âme qu'Allah a rendue sacrée, وَلَا يَزْنُونَ, et qui ne forniquent pas. Puis il dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, et quiconque le fait, c'est-à-dire les choses précitées, verra qu'il tombera dans un grand péché. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, son châtiment lui sera décuplé le jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement. Qu'est-ce qu'Allah dit ensuite? إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. À l'exception de ceux qui se repentent, qui ont foi et font de bonnes actions. Pour ces gens-là, Allah efface ou échange leurs péchés en bonnes actions. Allahu Akbar. Donc Allah a bien mentionné l'individu qui implore une autre divinité qu'Allah. C'est ça, shirk. Mais quand il se repent, Allah accueille et accepte son repentir. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans surat Az-Zumar, les groupes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, certes Allah pardonne tous les péchés. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. D'où l'ignorance, chers frères, de ceux qui s'expriment, qui prêchent. Il y en a même qui montent sur la chaire, sur l'estrade, où l'on prononce le discours du vendredi, pour mettre dans le cœur des serviteurs d'Allah le désespoir, en leur disant, Allah ne pardonne jamais le shirk, de façon absolue. Quel égarement que de dire cette parole. Allah ne pardonne jamais le shirk pour celui qui meurt dans cet état. Mais celui qui s'en repent, Allah lui pardonne, tabaraka wa ta'ala. Car il découlerait d'une telle croyance de dire qu'Allah n'accepte pas la conversion à l'islam de ceux qui se convertissent, puisqu'ils sont polythéistes. Donc, si Allah n'accepte pas le repentir du shirk, donc il n'accepte pas la conversion à l'islam. Vous voyez un peu l'ignorance de ces personnages. Donc, pour celui qui se repent, Allah accepte. Il s'agit donc dans ce verset de l'individu qui meurt dans cet état. Qu'est-ce qu'il adviendra d'une telle personne? إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ, Allah ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés. Vous entendez cela? Il ne pourra jamais espérer le pardon d'Allah. Il ne pourra jamais s'imaginer l'odeur du paradis. Il ne pourra jamais concevoir ou alors voir le paradis, même peut-être sa porte, il n'y entrera jamais. Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau entrera dans le chasse de l'aiguille, le petit trou de l'aiguille, c'est-à-dire jamais. Vous entendez ça et vous n'avez pas peur de tomber dans le shirk? Que dire alors de toutes ces gens, de toutes ces personnes qui disent cessez de parler tout le temps shirk, 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 alors qu'Allah Azza wa Jal ici te dit que si tu meurs dans le shirk, il ne te pardonne pas. Le paradis est interdit pour toi. Tu ne verras pas Allah. il ne sera pas satisfait de toi. Il sera en colère contre toi. Tu ne goûteras que le châtiment éternel. Il n'y a plus de repos. Tu as joui des délices de ce bas monde. Oublie-les maintenant. Les mécréants, les mouchrikoun, les polythéistes ne connaîtront que le feu éternel. Wal'iyadu billah. Comment ne pas craindre? Comment ne pas craindre, ash-shirku billah? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui bouleverse le cœur, raffermis mon cœur dans ta religion. Les pieux prédécesseurs craignaient, ash-shirku billah. Plus tu apprends tawhid, plus tu vas craindre ash-shirk. Moins tu apprends à tawhid, moins tu craindras ash-shirk. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne craignent pas le polythéisme. Non pas parce qu'ils sont à l'abri, mais parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas l'effet destructeur, les conséquences néfastes de ce crime horrible qui est ash-shirku billah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait que ce péché est propagé dans la terre d'Allah à très grande échelle, si bien que des gens sollicitent un autre qu'Allah. Parfois on le fait même au nom de l'islam. Wal'iyadu billah. On appelle ça tawhid. On appelle le shirk tawhid, comme on le voit dans le soufisme et dans les confréries du soufisme, où ils s'adonnent à l'adoration de leur maître, qu'ils appellent le maître spirituel, leur shir, leur gourou. Ils lui demandent la bénédiction, ils lui demandent, wal'iyadu billah, la guérison, ils lui demandent la réussite, et ils n'entrent dans sa demeure qu'après avoir sacrifié en son nom et immolé une bête. Ils n'entrent dans sa demeure qu'après avoir déposé devant sa porte tout ce qu'ils avaient comme économie. Ils voyagent pour accomplir des pèlerinages et circumambuler, tourner autour de tombeaux, de mausolées. Et ils disent qu'à présent, ils sont exempts de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Wal'iyadu billah. On ne vous parle pas de choses qui n'existent pas. On parle de choses vraies. Cheikh Abdelrazzaq a raconté l'histoire vrai d'un homme dans un pays qui a acheté une bête pour en faire une offrande, pour l'immoler au nom d'un prétendu vertueux, un prétendu pieux, un saint enterré dans une tombe. Cette bête est tombée malade. Cette maladie a causé sa mort. Savez-vous comment a réagi cet homme? Il s'est adressé à cet homme enterré, au mort, en l'invoquant et en disant: pourquoi as-tu fait mourir cette bête avant? Je l'avais achetée pour la sacrifier pour toi. A'udhu billah. Dans un pays dont je ne vous citerai pas le nom, il y a un homme, c'est une histoire racontée par le Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, qui est monté dans un taxi, quand un deuxième aussi est monté dans ce taxi. Le deuxième homme qui est monté a entendu le débat qu'il y a eu entre le chauffeur de taxi et le premier client déjà présent dans le véhicule. Le premier client qui négociait avec le chauffeur le prix de la course. Le chauffeur s'est mis à jurer par un autre qu'Allah. Le deuxième client qui venait d'arriver a interpellé le chauffeur et lui a dit: pourquoi ne jures-tu pas que par Allah subhanahu wa ta'ala? Le chauffeur a cessé de parler. Et pendant la route, le deuxième client, sahib al-tawhid, entendait que le chauffeur répétait une parole. Il ne faisait que de répéter « Ostour, Ostour, couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi ». Arrivé à destination, avant de descendre, cet homme dit au chauffeur: « Je t'ai entendu répéter « Ostour, Ostour, de quoi tu parles? À qui tu t'adresses ?» Il dit: « Lorsque j'ai juré par lui, tu m'as dit de ne pas le faire. J'ai peur qu'il me touche d'un châtiment. » Wal'iyadu billah. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Donc, « Ash-shirku billah » existe. Ash-shirku billahi tabaraka wa ta'ala existe. Ils pensent que leur maître peut les voir et peut les entendre. Dans la confrérie appelée Tijaniya du soufisme, ils pensent que leur maître spirituel, leur gourou, peut leur amener une bénédiction. Ash-shirku Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah, un grand savant du Maroc, qui a passé une partie de sa vie plongée dans cette croyance. Mais Allah Azza wa Jal l'en a sauvé et il est devenu un imam de la sunna du tawhid, qui était aimé par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. A un livre, intitulé Al-Hadiyatul Hadiyah et la Ta'ifati Tijaniyah, le cadeau guidant offert à la confrérie Tijani, où il s'adresse à eux en leur disant « J'étais comme vous avant, voici les arguments prouvant que cette croyance est erronée. » Dedans, il raconte son passé et il dit « Quand j'étais jeune, on m'avait appris que je ne devais avoir devant les yeux et dans le cœur que Tijani. J'oubliais tout ce bas monde et je n'avais que lui dans son cœur. » Il dit « Kuntu mushrikan, j'étais un polythéiste. » Il dit « Alors que j'étais avec mon chameau, ce dernier a pris la fuite. Je n'ai pas réussi à le rattraper. C'est là que je me suis souvenu que le moment était venu pour moi d'invoquer le grand maître afin qu'il guide le chameau vers moi. » Il parle de qui, le grand maître? D'un être humain mort, enterré dans une tombe à des milliers de kilomètres. Mais il va l'invoquer, peut-être qu'il va lui répondre. C'était sa croyance à l'époque. Il dit, j'ai invoqué ce maître, je l'ai interpellé par son nom, comme on interpelle Allah, comme on invoque Allah par ses noms. Subhanahu wa ta'ala, il dit, et le chameau n'est jamais revenu à moi. Je me suis donc dit, il y a un problème, et ça a été une des causes. Après, il y a d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet ici. Ces gens-là ont vécu le tawhid. Ils ont vécu le tawhid, ils savent ce que c'est le shirk. C'est pour ça qu'ils ne cessent de parler de ça. Et c'est pour ça que ce shaykh, Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, a dit, je conseille à tout musulman, dès qu'il termine la lecture du kitab al-tawhid, de le lire à nouveau comme moi je fais, chaque fois, car nous sommes tous dans le besoin de ce qu'il contient comme texte. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Et il pardonne à part cela à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, à part le polythéisme, à part le shirk, Allah pardonne à qui il veut. Tabaraka wa ta'ala. Nous avons vu qu'Allah ne pardonne pas le shirk, c'est-à-dire pour celui qui meurt dans cet état. Maintenant, quand Allah dit à part le shirk, il pardonne à qui il veut, s'agit-il de quelqu'un qui meurt dans un péché inférieur au shirk, et qui meurt dans cet état aussi, ou s'agit-il de quelqu'un qui se repent de ce péché qui est qualifié ici comme étant à part le shirk? Vous avez la réponse? Les deux? Non. Le premier, c'est-à-dire la personne qui meurt dans un péché majeur sans s'en repentir. C'est de ça qu'Allah parle. Car comme a dit Cheikh Abdelrazzaq, si on dit autre chose, c'est qu'on a une mauvaise compréhension du début du verset. Car le début et la fin du verset nous parlent de la même chose. De la personne qui meurt dans cet état. Le premier état cité, à shirk, Allah ne pardonne pas. Le deuxième état cité, les péchés inférieurs au shirk. Celui qui meurt dans cet état sans se repentir est sous la volonté d'Allah. On dit, huwa tahta mashi'atillah. Si Allah veut, il lui inflige le châtiment parce qu'il est juste, subhanahu wa ta'ala. Et si Allah veut, il le punit parce qu'il est... Non, on l'a déjà dit. Et si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, il lui fait miséricorde et le fait entrer au paradis. Dans le cas où il le fait entrer en enfer, il va en sortir. Car il est mort sur le tawhid. Voici de quoi Allah parle, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci suscite dans nos cœurs la crainte du shirk, la peur de tomber dans le polythéisme, wal'iyadu billah. Surtout, ou d'autant plus que il n'y a entre le polythéiste et le feu de l'enfer que la mort. Les savants disent al-mushrik qaribun jiddan minan nar. Le polythéisme est très proche du feu. Il n'y a entre lui et le feu que la mort. Dès qu'il meurt, à partir du moment où il est mort, il va goûter au supplice, au châtiment, parce qu'il a donné un égal au Seigneur des mondes, parce qu'il a associé au Créateur le Tout-Puissant, le Parfait, le Dominateur Suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Voici donc le sens de ce verset. Donc celui qui meurt en commettant du polythéisme n'est pas pardonné par Allah. Il entre dans le feu. Celui qui meurt en commettant un péché inférieur au polythéisme, est sous la volonté d'Allah. Allah choisira, et pour certains, il décidera de les punir, de leur péché, pour leur péché, mais après ils entreront au paradis. Et cette étape qu'ils passeront au feu, on l'appelle marhalatu tathir, l'étape de purification. Ou alors, Allah leur fera miséricorde pour une raison dont il est connaisseur de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc voici ce qu'il faut comprendre et connaître de ce verset. Voici le sens de ce verset. Maintenant, il y a une question. Vous vous souvenez que le polythéisme se divise en deux, majeur et mineur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés », il ne pardonne pas le shirk. Est-ce qu'il parle des deux catégories ? Ou alors parle-t-il, subhanahu wa ta'ala, seulement de la première, la plus grave, à shirkul akbar ? Cette question fait l'objet de la divergence des savants. Certains ont dit, ici, ce qui est voulu, c'est-à-dire dans ce verset, c'est al-shirku al-akbar wal-asrar, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Ils ont dit qu'à, je vais vraiment vous faciliter, parce qu'il faut comprendre l'arabe, il faut comprendre la grammaire, il faut avoir un minimum pour connaître ça, mais le résultat de ce qu'ils ont dit, c'est que la forme de la phrase ici laisse entendre la généralité de toutes les formes du shirk. La forme de phrase utilisée en arabe, quand elle est étudiée, laisse entendre et fait découler la compréhension suivante, la généralité du shirk, majeur soit-il ou mineur. D'autres ont dit, donc ces gens-là, ces savants qui ont cet avis disent, ainsi Allah ne pardonne ni le majeur ni le mineur. D'autres ont dit, le polythéisme mineur est comme les grands péchés. Il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui commet un shirk al-asrar sans s'en repentir est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il châtie par sa justice, tabaraka wa ta'ala, puis il le fait sortir pour l'entrée au paradis. Et s'il veut, par sa miséricorde, et pour une raison dont il est parfaitement connaisseur par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, il le fait entrer au paradis. Ash-Shir Salih al-Fawzan a dit, le plus probable, c'est le premier avis. C'est que le polythéisme majeur et mineur ne sont pas pardonnés. Donc, celui qui commet le polythéisme majeur et qui n'est pas pardonné, sera éternel dans le feu. Celui qui commet le polythéisme mineur, et donc qui n'est pas pardonné aussi, passera un temps dans le feu pour se décharger de ce fardeau du polythéisme qu'il a commis mineur, après quoi il entrera au paradis. Al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, a cité les deux avis, puis il ne s'est pas exprimé. Il a dit, l'essentiel, c'est de craindre al-Shirk, de craindre de tomber dans le polythéisme. Car on ne veut pas simplement ici avoir les divisions, les définitions, puis s'en aller sans aucun effet dans le cœur. On apprend ça pour justement que cette science pénètre nos cœurs, pour qu'on la mette en pratique, pour qu'on la vive. Car en réalité, celui qui étudie Kitab ou Tawhid, il va revivre. Wallah alladhi la ilaha ghayru. Celui qui étudie Kitab ou Tawhid avec sincérité, avec véracité, avec envie de comprendre le droit d'Allah sur ses serviteurs, de le mettre en pratique, de le propager, wallah, il va revivre. Wallah al-azim, il va revivre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, aw man kana mayta fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharij minha. Est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie et une lumière avec laquelle il circule au milieu des gens, est semblable à celui plongé dans les ténèbres desquelles il ne sortira jamais? Allah Azza wa Jal parle ici de celui qui l'a fait revivre par le tawhid. Il était mort, vivant physiquement, mort spirituellement, mort dans son âme, mort dans son cœur. Al-Mushrik Mayyit, le polythéiste, il est mort. Wallah, il est mort. Wallah, alladhi la ilaha ghayru, al-Mushrik Mayyit. Il est mort, et la mort se voit sur son visage. même s'il est le plus riche, le plus aisé, wallahi, tu vois la mort sur son visage. Wa sahibu at-tawhid wa in kana min afqari an-nas, wallahi tara al-hayata fi wajhihi. Le monothéiste, même s'il fait partie des gens les plus besogneux, les plus pauvres, les plus misérables, les plus éprouvés, wallahi, tu vois la vie du tawhid dans son visage. Hadha athar at-tawhid fi al-hayah. C'est l'effet du tawhid dans le cœur de la personne. Le deuxième verset, قال رحمه الله وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل c'est le prophète Ibrahim عليه السلام. Il a été appelé Al-Khalil. Al-Khalil signifie dans le sens linguistique l'ami intime, le plus haut degré de l'amour dans la langue arabe, plus haut que ce qu'on appelle Al-Mahabba, qui est l'amour. Il y a au-dessus de ça Al-Khulla. Al-Khulla, Al-Khulla, c'est le plus haut degré de l'amitié et de l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadha Ibrahim khalila. Comme Allah dit dans le sens du verset, Allah a pris Ibrahim en ami, subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pris en ami comme prophète que deux, Ibrahim alayhi salam et Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le haut rang qu'ils occupent chez Allah, car ils ont concrétisé le tawhid sous toutes ses formes et ils ont combattu le shirk et ils en étaient les plus éloignés parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez ici ce que dit le Cheikh Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qala al-Khalil alayhi salam, l'ami intime d'Allah a dit. Qu'a donc il dit? وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Écarte-moi, ainsi que mes enfants, ma descendance, de l'adoration des idoles. La suite du verset. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Ô Seigneur, ces idoles ont égaré beaucoup de gens. Subhanallah. C'est l'ami intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est le père des prophètes, et quand il dit « Écarte-moi et ma descendance », qui a-t-il dans sa descendance? Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Banu Israël et tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. C'est d'eux qu'il parle. Il demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de le protéger, lui et sa descendance, de l'adoration des idoles. Alors que Ibrahim, ô musulman, est celui qui de sa main a cassé les idoles. On l'a invité au shirk, et lui avec sa main il a cassé toutes les idoles. Il a combattu shirk. Allah l'a aimé, Allah l'a élevé, Allah l'a protégé, Allah l'a guidé, au point où Allah l'a qualifié dans le verset suivant, précédent, du chapitre précédent, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahim était un guide parfait, un guide parfait. Et certains ont dit umma dans son vrai sens, la communauté. Ibrahim, à lui tout seul, était comme une communauté entière, tellement qu'il appelait au tawhid. Un homme seul peut faire beaucoup de choses si son cœur est pur. C'est le cas de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc Allah Azza wa Jalla a décrit Ibrahim par toutes ses caractéristiques, et pourtant, il craint de tomber dans le shirk. Il a peur d'adorer les idoles qu'il a cassées avec sa main, ya ikhwa, ô musulmans. Comment toi tu ne vas pas te sentir à l'abri de tomber dans le polythéisme? Et la crainte qu'il a eue l'a poussé à invoquer Allah. Et comme a dit Cheikh Abdarraza, la véracité dans la crainte de tomber dans le shirk te pousse à invoquer Allah. C'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam. Et quand Ibrahim a dit « Écarte-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles », puis il a dit « Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas » Ô mon Seigneur, ces idoles ont égaré bon nombre de gens. Le Cheikh Abdarrazaq al-Badr a dit, Hafidhahullah ta'ala, la plupart des formes de polythéisme commis par les gens sont le résultat de deux choses. Écoutez bien, la santé et l'argent. C'est à cause de la santé et de l'argent que beaucoup de gens commettent le shirk. Qu'est-ce que cela veut dire? Il tombe malade. Qu'est-ce qu'il fait pour se soigner? Il va voir un sorcier. Il va voir un charlatan. Il sacrifie une bête au pied de la tombe de tel et tel saint. en pensant que la guérison va venir. L'argent, il est pauvre, ou alors il est riche, mais il veut devenir encore plus riche. Il va faire un sacrifice pour tel et tel gourou. Wal'iyadu billah. Sa femme est stérile. Pour favoriser sa fécondité, il va prendre de ses cheveux et il va lui faire une sorcellerie chez tel savant charlatan, chez tel sorcier. Dans tous les pays de la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, où les gens commettent ces formes de polythéisme, observez-le, vous allez voir que c'est à cause de la santé et de l'argent. Ils ont oublié celui qui leur a donné la santé et l'argent. Et Ibrahim encore, alayhi salam, a dit dans un autre verset, en s'adressant à son peuple pour les inviter au tawhid, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a dit, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Oh Seigneur, elles ont égaré ces idoles, bon nombre de gens. Cheikh Abd al-Razak a dit, il y a beaucoup de gens qui viennent devant ces tombes ou chez leurs gourous, ils font ces sacrifices, ces immolations, ils les sollicitent et les implorent comme on sollicite et implore Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah les éprouve. Comment est-ce qu'Allah les éprouve? Il les guérit à ce moment-là. Il les guérit au moment où ils ont invoqué autre qu'Allah. Il leur donne la richesse au moment où ils l'ont demandé à un autre qu'Allah, pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Et le résultat ne prouve pas que la chose qu'ils ont faite est bonne. Le résultat n'a jamais prouvé le caractère licite ou non d'une chose. Mais ce qui le prouve, c'est la conformité avec la volonté divine, avec la prescription divine, avec les injonctions divines, avec la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart de ces gens te disent, tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais essayé. Viens essayer. Ils te disent, je te jure, par Allah, je te jure que ma fille était malade, que mon voisin était malade. On a été dans tous les hôpitaux et recherché tous les remèdes et médicaments naturels et pharmaceutiques. On n'a rien trouvé. On a été voir le Sidi Intel, le friq Intel, le talib Intel, le marabout Intel. Et il nous a confectionné quelque chose que l'on a porté sur nous, où il nous a ordonné de faire tel et tel sacrifice. Et je te jure par Allah que ma fille a guéri. Et c'est comme ça qu'il rentre les choubouhats dans les cœurs des musulmans, les ambiguïtés. Et ils vont voir des gens qui sont pauvres, qui ont essayé toutes les causes apparentes, mais qui n'ont pas de tawhid. Et ils leur disent, tu as essayé tout cela, tu as essayé tout cela, et ça n'a pas marché. Regarde devant toi, tu vois cette personne? Tu te souviens quand elle était malade? Tu sais pourquoi elle est guérie maintenant? Parce qu'elle a été dans la tombe de telle et telle, parce qu'elle a été voir telle et telle personne, regarde comment elle est. Ça marche, fais-le et demande pardon à Allah après. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Wal'iyadu billah. Je suis entré chez des gens, moi qui vous parle, pour al-ruqya. Mais je ne fais pas ça, je vous dis tout de suite. Mais je vous cite quelque chose. Je suis entré chez des gens pour al-ruqya. La première chose que j'ai vue en entrant chez ces gens-là, une fumée dans la maison. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est que cette fumée? Ce n'est pas la fumée que l'on utilise pour la bonne odeur. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Il ne voulait pas répondre. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? D'où vient cette fumée? C'est quelqu'un qui nous l'a donnée. Il nous a dit que c'est quelque chose de bien, c'est au nom d'Allah, il n'y a pas de problème. Vous avez été voir quelqu'un que vous avez payé, qui vous a donné quelque chose? Il ne voulait pas répondre, j'ai insisté, il a dit oui. Je lui dis, ensuite vous plaignez, pourquoi vous ne guérissez pas? Vous donnez des égos à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est chez beaucoup de gens. Wallahi alladhi la ilaha ghayra. Ne croyez pas que vous ici, vous êtes en France, vous êtes cultivé où? Non, wallahi par Allah, peut-être que chez vos voisins, le shirk est rempli. Dans toutes les chambres et dans toutes les maisons des gens, ma'al asaf. Des gens qui viennent aux cinq prières à la mosquée, tu rentres chez eux, tu trouves un shirk al-akbar ou un shirk al-asrar. Ils disent, j'ai accroché ça sur telle porte, j'ai accroché ça, et ça on va le développer après dans Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. L'essentiel est de comprendre ici que l'on doit craindre le polythéisme. On doit avoir peur de tomber dedans. Ibrahim, alayhi salam, malgré le statut qu'il a, si Allah Azza wa Jal, regardez ce qu'il a dit. Écarte-moi et ma descendance de l'adoration des idoles. Ibrahim al-Taymi, un des salaf, un des tabi'in, a dit « وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمُ » Qui peut se sentir en sécurité après Ibrahim ? Lui qui est élu, lui qui occupe ce rang si élevé chez Allah et qui demande à Allah par crainte de tomber dans le polythéisme, de l'en préserver. Qui peut se sentir en sécurité après lui ? Et aujourd'hui, il y a des gens qui répandent et émettent des shubuhat, des ambiguïtés. Ils disent At-tawhid ash-shirk la yujad. Il n'existe plus le polythéisme. Ça n'existe plus. An-nas ta'allamu, an-nas tafaqahu. Les gens maintenant sont cultivés, ils ont étudié, ils connaissent. Le polythéisme n'existe plus. Ne parlons plus de ça. Ils vont même jusqu'à argumenter par des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques, mais dont ils n'ont pas compris le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna shaytana ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab. Le diable a désespéré d'être adoré par ceux qui accomplissent la prière dans la péninsule arabique. Ils ont dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le diable a désespéré d'être adoré par ces gens-là à partir du moment où il prie. Et nous autres aussi faisons la prière. Ainsi, nous sommes comme eux, préservés de l'adoration du diable. Passons à un autre sujet. Subhanallah. Allahu Akbar, c'est aussi simple que ça? Et pourquoi est-ce qu'Allah a cité tous ces versets alors? Pourquoi est-ce que tu lis le Coran au toi qui prononce de telles paroles? Pourquoi est-ce que tu lis dans le Coran « قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Pourquoi tu lis ce verset? Pourquoi est-ce qu'Allah t'a prescrit de lire ce verset jusqu'à ta mort? Pourquoi est-ce que dans des mosquées, on enseigne ces versets et on étudie l'essence, s'il n'y a plus de shirk? وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Regardez l'égarement. Alors que ce hadith, la réponse est très simple. Il s'agit ici du fait que quand le prophète a répandu le tawhid dans la péninsule arabique, à son époque, le tawhid a pris la place. Si bien que le diable, à cette époque, n'avait plus d'emprise sur eux, ne pouvait plus rien faire. Mais le shirk va revenir. C'est pour ça que dans d'autres hadiths, ô vous qui ne lisez pas tous les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تقوم الساعة حتى تلحق في آم من أمتي الأوثان. L'heure ne viendra, ne sonnera, le jour dernier n'arrivera que quand des gens de ma communauté reviendront à l'adoration des idoles. أو يلحق بالمشركين, ou rejoindront, pardon, les polythéistes. Donc c'est quelque chose qui existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tattabi'anna sanana man kana qablakum » Vous allez suivre les voies suivies de ceux qui vous ont précédé. « Zira'an, zira'an, shibran, shibran »« Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu » Empan par empan, coudé par coudé, au millimètre, au centimètre, vous allez les suivre. Vous allez prendre leurs coutumes, leur façon de vivre, leur façon, leur religiosité, leur compréhension de la religion. Vous allez les suivre, ceux qui vous ont précédés. Au point où lorsqu'ils entreront dans le trou, dans le terrier du lézard, vous entrerez avec eux. Certains savants ont dit, ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme exemple le terrier du lézard. Car le lézard est un animal qui a la capacité de plier son corps dans tous les sens. Et son terrier, son trou, n'est pas un trou droit. Son trou est tordu. Et il tord son corps pour y entrer. Même dans un trou tordu, vous allez les suivre comme ça. Et après, des gens vont dire, il n'y a plus de shirk. Il n'y a plus d'innovation. Le verset, le chapitre, pardon, le texte suivant. Il dit, « وَفِي الْحَدِيثِ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ » Ash-shirkul asghar. La chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. À qui est-ce qu'il s'adresse? il s'adresse à ses compagnons. Ô vous qui avez dit qu'il ne sert à rien d'étudier à Shirk. De votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si toutefois vous vous soumettez à lui et croyez en lui, s'adresse à l'élite de l'humanité, les compagnons qui ont été élogés par Allah dans le Coran, dont les mérites ont été mentionnés dans bon nombre de versets du livre, si bien qu'Allah azza wa jalla a dit « Radiyallahu anhum wa radu an » Allah les agrée et eux-mêmes l'agréent. Allah les a agréés, il en est satisfait. Ils sont les imams de la communauté islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, d'après le compagnon appelé Mahmoud ibn Labid. Mahmoud ibn Labid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. La chose que je crains le plus pour vous. Donc il s'adresse à ses compagnons et ne dit pas simplement « je crains une chose pour vous ». Vous les compagnons, vous l'élite des musulmans, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Après on ne va pas craindre « shirku billah subhanahu wa ta'ala ». « Fasu'ila anhu faqala riya » On l'a interrogé, il a répondu « riya » l'ostentation. الشيخ عبد الرزاق دي الجواب هنا جواب بالمثال أي من أمثلة الشرك الأصغر الرياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par un exemple, par une des formes du polythéisme mineur qui est ici l'ostentation. Mais il existe bien d'autres formes de polythéisme mineur. C'est donc ici une forme qui a été citée en exemple par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'il craint. Al-Riya. Al-Riya est un terme pris du mot ru'ya, qui signifie la vision. Il s'agit ici de faire quelque chose pour être vu par autrui. Donc pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour autrui nous regarde. Par exemple, quelqu'un entre dans la prière, dans la mosquée, pardon, il fait une prière de façon normale et simple. Mais il voit qu'il est regardé et observé. Il se met à embellir cette prière. Non pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais parce qu'il est vu et regardé par autrui. Ou alors, il n'avait pas l'intention de donner une aumône. Puis on le regarde, il met la main à la poche et donne aux pauvres. Pour qu'on dise de lui, « Oh qu'il est généreux, oh qu'il sait bien prier. » Ça c'est ce que l'on appelle « al-riya » l'ostentation. Il y a une autre chose équivalente, mais qui a un lien avec l'ouïe et pas la vue. On appelle ça as-sum'a. As-sum'a, c'est le fait que la personne cherche à être entendue. Elle veut que l'on entende ce qu'elle fait, ce qu'elle a dit, etc. Peut-être qu'elle a fait une action qui n'a pas été vue par les gens, mais elle en parle. Elle fait entendre ce qu'elle a fait aux gens. Toutes ces choses sont interdites et relèvent du polythéisme. Wal'iyadu billah, notamment aussi du polythéisme mineur. Et dans ce hadith, on voit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que le polythéisme se divise en deux, majeur et mineur. Car il leur dit, Ash-shirkul asghar, c'est lui qui donne ces termes, le polythéisme mineur. Donc les savants ont dit, il découle de cela qu'il existe le polythéisme majeur. Sinon, dire polythéisme mineur n'a pas de sens. Donc vous voyez que les savants de la Sunna s'appuient sur les textes. Walhamdulillah. Le hadith suivant, An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Mais juste avant d'entrer dans le hadith suivant, il y a un autre point qui est que l'ostentation aussi se divise en deux, mineur et majeur. L'ostentation majeure, c'est celle qui est vue chez les hypocrites. Les hypocrites qui sont des kuffars, qui cachent dans leur cœur la croyance alors qu'en réalité, ils n'ont aucune foi ni en Allah ni en rien de tout cela. Comme Allah Azza wa Jalla a dit les concernant dans Surat An-Nisa, يراؤون الناس يراؤون من الرياء ils œuvrent pour être vus par les gens. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils n'évoquent Allah que très peu. Il y a ce qu'on appelle يَسِيرُ الرِّيَا. On pourrait traduire cela par l'ostentation mineure. C'est embellir un acte pour le regard d'autrui. Donc, il y a l'ostentation dans tous les actes, dans l'islam même. C'est-à-dire que la personne en réalité n'est pas musulmane. Ça, c'est du kufr akbar, de la mécréance majeure. Et il y a l'ostentation mineure qui peut être faite par un musulman, qui peut être touché par ce malheur d'embellir une prière ou de prononcer une parole pour être vu par autrui. Ceci étant dit dans le hadith suivant, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Rapporté par Al-Bukhari. Quiconque meurt tout en invoquant un égal avec Allah entrera au feu. Wal'iyadu billah. Ce hadith a été cité dans ce chapitre par l'imam rahimahullah pour nous montrer la crainte que l'on doit ressentir de tomber dans le polythéisme, puisque celui qui meurt dans cet état entrera dans le feu d'Allah. Wal'iyadu billah. Al-Shaykh Salih Al-Fawzan a dit: وَمَنْ يَدْرِي مَتَى يَمُوتُ وَمَنْ يَدْرِي مَذَا يَمُوتُ عَلَيْهِ. Et qui peut savoir quand est-ce qu'il mourra? Qui peut savoir dans quel état il va mourir? فَالْإِنسَانُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ. L'homme doit craindre pour sa personne la mauvaise fin. وَأَنْ يَمُوتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ. Il doit craindre de tomber, de mourir en associant à Allah. فَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Il rejoindra les gens du feu. فَالْإِنسَانُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْذَرَ مِنَ الشِّرْكِ طُولَ حَيَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ يَمُوتِ فَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. L'homme doit craindre tout au long de sa vie le shirk, car il ne sait pas à quel moment il va mourir, de peur d'être des gens du feu. Donc ça te montre que tu dois craindre an-nar, que tu dois craindre ash-shirk, le polythéisme, contrairement à ce que beaucoup de gens ont comme situation ou comme état, où ils ont complètement oublié. Pour eux, le shirk n'existe pas. Il suffit juste, c'est une question juste de comportement, de bon voisinage, de respecter le dépôt, de ne pas forniquer, de ne pas consommer l'alcool et tu es un bon croyant. Ça ne sert à rien tout ça si tu es un mouchrik. Tout ça, ça ne sert à rien. Si après c'est pour aller jurer par un autre qu'Allah, comme beaucoup de gens le font, si après c'est pour aller commettre du shirk akbar, wal'iyadu billah, il faut donc craindre un shirk. Également, man mata, quiconque meurt, c'est-à-dire quiconque meurt dans cet état, ça veut dire que celui qui ne meurt pas dans cet état, qui s'est repenti à Allah, n'entre pas au feu. Bi'ilnillahi tabaraka wa ta'ala. Le hadith suivant rapporté par l'imam muslim an Jabir radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah. Quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Et quiconque le rencontre en lui associant quoi que ce soit, entrera au feu. Wal'iyadu billah. Ici, on voit également une information. Le monothéiste al-muwahhid qaribun min al-jannah. Hadhihi fa'ida. Le monothéiste est très proche du paradis. Laysa bayna al-muwahhid wa dukhul al-jannah illa al-maut. Il n'y a entre le monothéiste et l'entrée au paradis que la mort. Pour cette raison, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara'a ayat al-kursi, quiconque récite ayat al-kursi, laysa baynahu wa bayna an yadkhula al-jannah illa al-maut. Il n'y aura entre lui et l'entrée au paradis que la mort. Donc vous avez vu que le monothéiste, car ayat al-kursi, c'est le meilleur verset du tawhid dans le livre d'Allah. Le verset 255 du surat al-Baqarah. Quiconque le lit, on comprend le sens, on met en pratique ses implications, vit avec, meurt dans cet état, il n'y a entre lui et le paradis que la mort. Le monothéiste est très proche du paradis, comme le polythéiste est très proche du feu. Qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. Quiconque rencontre Allah sans rien lui associer. La yushriku bihi shay'an. Le terme shay'an est un terme à la forme indéfinie. Dans les phrases de langue arabe, quand une chose a la forme indéfinie est niée, quand nous sommes dans un contexte de négation et la chose qui est niée est à la forme indéfinie, il s'agit de toute chose pouvant être concernée par cette chose niée. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yushriku bihi shay'an » ne lui associe aucune chose, rien. « Shay'an » une chose, on n'a pas cité de quelle chose on parle, à la forme indéfinie. Quand il y a la forme indéfinie dans un contexte où il y a une négation, ce qui est le cas ici, ce que l'on veut par là, c'est nier toutes les choses pouvant exister dans ce domaine-là. Ici, le shirk. Toutes les choses pouvant être adorées en dehors d'Allah sont niées ici. C'est-à-dire, celui qui meurt et rencontre Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui avoir associé parmi tout ce qui peut exister et tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, entrera au paradis. Bien sûr, l'entrée au paradis se divise en deux. Soit il entrera au paradis directement, ou alors, s'il est zalim li nafsi, il a causé du tort à sa personne, il ne s'est pas repenti, et qu'Allah décide de le châtier par justice, il entrera d'abord dans le feu, duquel il sortira forcément de par son tawhid. Est-ce que ces questions vous sont claires? Est-ce que sont bien assimilées et comprises? وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٍ دَخَلَ النَّارِ. Et quiconque le rencontre en lui associant quelque chose, c'est la même chose ici. Quoi que ce soit un tombeau, un prophète, un ange, un pieu, une fourmi, une mouche, un mur, un arbre, une feuille d'arbre, une vache, un rat. Ils adorent des rats dans des pays. Ils adorent des rats. Et nous, dans l'islam, on doit les tuer, les rats. Et eux, ils les adorent. Allahu Akbar. Ils adorent d'autres choses et je vais préserver ma langue de vous le dire dans ce cours. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et donc, celui qui se préserve de cela... Donc, pardon, celui qui tombe dans une forme de shirk entrera dans le feu. Wal'iyadu billah. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan a dit هذا حديث هذا مثل حديث ابن مسعود. Ce hadith est identique au hadith précédent, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. من مات على الشرك فإنه من أهل النار نسأل الله العافية. Celui qui meurt sur le shirk fait partie des gens du feu, qu'Allah nous accorde le salut. فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة. Il y a ici une mise en garde contre la mauvaise fin. والعياذ بالله. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى a cité en conclusion dans son commentaire 5 points. Premier, من مات على الشرك لا يغفره الله. Quiconque meurt polythéiste, Allah ne lui pardonnera pas. Deuxièmement, al-anbiya'u khafu min ash-shirk. Les prophètes ont craint le polythéisme. Troisièmement, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khafahu ala ummati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint le polythéisme pour sa communauté. Quatrièmement, an-naru qaribun min al-mushrik. Le feu de l'enfer est proche du polythéisme. Et enfin, سَيَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أُنَاسٌ فِي الشِّرْكِ. Des gens de cette communauté tomberont dans le polythéisme. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله a dit وفي نصوص هذا الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة، بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر. Les textes mentionnés par l'auteur dans ce chapitre nous amènent tous à ne pas être dupés par notre personne, ne pas être trompés par notre personne, peu importe le niveau de foi, de connaissance, de savoir que l'on a atteint. Au contraire, chacun d'entre nous se doit de reconnaître son caractère faible et besogneux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si Allah ne le préserve pas, si Allah ne l'épargne pas, il est dans un terrible danger. Wal'iyadu billah. Tout comme il y a dans ce chapitre le sens de la ilaha illallah. Man laqi Allah la yushriku bihi shay'an. Quiconque rencontre Allah et ne lui associe rien. C'est le sens de la ilaha illallah, de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الصالح أدي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح اللهم أمين. Nous implorons Allah, exalté soit-il, de nous accorder son assistance afin que l'on œuvre et que l'on œuvre avec science et que l'on fasse de bonnes actions. وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه. Et qu'il nous octroie à vous aussi la fermeté et la constance dans sa religion. Et qu'il nous fasse voir la vérité comme elle est, et qu'il nous donne le privilège de la suivre. Et qu'il nous montre le faux comme il est, c'est-à-dire qu'on puisse voir que c'est faux, et qu'il nous en écarte. Et qui fasse que le faux ne soit pas ambigu à nos yeux, car on s'égarera. Et on demande à Allah de nous protéger contre le fait d'être trompé par sa personne. On demande à Allah de nous protéger contre le fait d'être étonné par nos actions. Et on demande à Allah de nous protéger contre le fait de faire ses éloges de sa personne. Moi je suis monothéisme, moi je suis dans le tawhid, moi je suis. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Dans le sens du verset rapproché, Allah Azza wa Jalla a dit: ne faites pas vos propres éloges, il est bien plus connaisseur de ceux qui le craignent. Subhanahu wa ta'ala. Voici la fin de ce chapitre. Allah nous a facilité d'étudier en un cours. باب الخوف من الشرك. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.